19h sur BAC FM 106.1. Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt bonsoir. Vous écoutez les coulisses de la formation, l'émission qui vous emmène dans les backstage des écoles, des campus et des métiers de demain. Aujourd'hui, on pose nos micros au campus by CCI Nièvre et plus particulièrement à Digisup, l'école de marketing digital, de la communication et de l'événementiel. Le thème de cette émission, les regards croisés entre formateurs et étudiants en marketing digital. On va parler concrètement de ce qu'on apprend, de ce qu'on fait en projet et en alternance et de la manière dont ces formations préparent au métier du numérique. Pour en parler, j'ai le plaisir d'être entouré de deux formateurs, Héloïse Nedelec, graphiste et formatrice en identité visuelle. Bonjour.
Bonjour.
Et Pierre-Jean Gubert, tu travailles au marketing d'une boîte automobile et tu es également spécialiste de stratégie digitale.
Absolument. Oui. Bonjour à tous.
J'ai également avec moi deux étudiants de Digisup, Cécilia Martel, bonjour.
Bonjour.
Toi, tu es en troisième année de bachelor marketing digital et enfin Théo Delmotte, toi tu es également en dernière année de marketing digital, communication et événementiel.
C'est ça.
C'est bien ça, parfait. Je vais commencer avec une question pour les formateurs et formatrices, du coup, puisqu'on est inclusif. Pour qu'on comprenne bien, est-ce que vous pouvez un peu présenter la formation en marketing digital à Digisup? Qu'est-ce que ça veut dire, marketing digital, pour les gens qui ne connaîtraient pas cette formation?
Alors, la définition du marketing digital, ce sont toutes les stratégies qui vont vous amener, lors de votre navigation sur Internet, à acheter un produit. Et ça sous-entend beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, notamment la création de contenu, notamment la gestion des différentes régies, notamment celle de Meta, qui vous permettent d'acquérir du trafic pour au service d'un objectif très précis. Et souvent, cet objectif, c'est donc d'acheter donc un produit en ligne. Donc, vous êtes absolument indispensable à n'importe quelle organisation, qu'elle soit associative pour requérir des adhérents, que vous soyez une activité économique pour vendre des produits, ou simplement si vous avez envie de promouvoir vos idées et de les déployer au-delà de votre cercle d'amis.
Donc, qu'est-ce qu'on apprend dans une école de marketing digital?
Alors, beaucoup de choses. La première étant déjà de comprendre à qui vous allez vous adresser. Donc ça demande déjà un travail d'empathie et c'est un métier à la confluence de la sociologie, de l'anthropologie, mais également de la data. Ensuite, on apprend à rentrer en contact par les canaux numériques auprès de ces différentes audiences. Donc c'est très concret, c'est-à-dire concrètement quelles images, quels textes, quel canal, donc quel choix de réseau social vous allez utiliser pour rencontrer ces personnes qui sont potentiellement des consommateurs ou potentiellement des gens intéressés par ce que vous avez à leur proposer. Alors dans ce cadre-là, on fait beaucoup de choses. On réfléchit un petit peu parce que c'est pas si simple dans un environnement où tout le monde est un peu saturé de messages. Comment on rencontre ces gens avec le bon message, au bon moment, au bon endroit, et surtout on apprend très concrètement à fabriquer donc les vidéos, les images, les textes et à utiliser intelligemment ces canaux qu'on utilise tous les jours.
Quand vous l'expliquez comme ça, j'ai un peu de mal à faire la différence avec de la communication plus classique.
Alors, notre métier, c'est de créer une relation avec une vocation à amener les gens à faire quelque chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas simplement pour pousser une idée et la faire rayonner, on est là pour faire entrer les gens dans une relation avec une organisation, une entreprise par exemple, et surtout les amener à acheter un produit un jour ou l'autre.
Oui, ok. Et Louis, tu me disais en off que tu étais graphiste, oui. C'est bien ça. Comment tu lis cette profession, cette compétence professionnelle du coup à ton métier de formatrice?
Moi, j'interviens en fait sur un volet un peu plus technique. Enfin, c'était le point de départ de mon entrée chez Digisup finalement. Le volet technique de l'accompagnement sur la retouche d'image, sur le dessin vectoriel et amener finalement des outils aux élèves pour qu'ils soient en mesure de produire des éléments visuels.
Dessin vectoriel, juste pour nos auditeurs?
Alors ça va être des dessins d'illustration, ce sont les outils de PAO, donc publication assistée par ordinateur, par exemple des logiciels comme la suite Adobe, que tout le monde connaît.
Oui.
Voilà, on va entendre Photoshop qui sera pour la retouche d'image, et Illustrator qui sera pour du dessin d'illustration, ou des logos, ou des pictogrammes, des choses comme ça. Voilà.
Et du coup, toi, tu es rentré par ce volet technique, c'est-à-dire que dans ton métier de graphiste, à la base, tu faisais ça et du coup...
Voilà, c'est des outils que j'utilise au quotidien.
Okay.
Et que j'ai pris l'habitude de transmettre, parce que voilà, je crois que Digisup fêtera ses 10 ans l'année prochaine. Et moi, je suis là depuis le point de départ.
Et du coup, et Louise et Pierre-Jean, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes professionnels à côté, vous n'êtes pas que formateur. C'est pas parce qu'on maîtrise un domaine qu'il est facile de l'enseigner, c'est pas toujours la même méthode en tout cas. Est-ce que ça a été une épreuve pour vous d'apprendre à transmettre quelque chose?
C'est vrai que c'est pas évident. Enfin, les premiers temps, il faut réussir à se caler. Alors, aussi bien sur... parce qu'on a une idée de ce que les élèves peuvent attendre.
Mmh.
Et alors, soit effectivement, ils n'ont pas les mêmes attentes, ils n'ont pas forcément le même rythme, ils n'ont pas forcément non plus le même vocabulaire au départ. Et ça, c'est hyper important, je pense, de bien mettre un socle commun pour qu'on se comprenne et qu'on puisse évoluer et construire des choses ensemble.
Une sorte de lexique.
Voilà. Je sais pas, après, enfin moi j'ai pas trouvé ça si évident que ça. Après j'avais aussi eu la chance de, voilà, d'enseigner ponctuellement sur d'autres établissements. Donc voilà, j'avais quand même quelques idées quant aux attentes possibles des élèves, mais en 10 ans, je vois le changement, parce qu'on est sur des formations aussi qui bougent au quotidien. Enfin, le digital, le numérique, ça évolue. C'est-à-dire que définir ce métier, enfin ces métiers-là aujourd'hui, dans 3 ans, ça aura complètement changé, probablement sur les missions attendues. Et donc là, c'est les élèves qui vont nous dire aussi un petit peu ce qu'ils voient par là. Oui.
Alors, je suis tenté de dire que tout professionnel, pour être vraiment compétent, devrait être amené à enseigner. Je pense que c'est une excellente enseigner, c'est un excellent moyen de réapprendre son métier. Simplement expliquer à quelqu'un de manière, par une suite d'actions très concrètes, comment arriver à une finalité, c'est un super outil pour s'interroger sur ses propres pratiques et surtout devenir plus rigoureux. Donc, je pense que déjà, c'est gagnant pour nous, mais je pense que c'est également gagnant pour les élèves, puisque, comme disait Héloïse justement, nos métiers évoluent extrêmement rapidement et ce à quoi j'aspire, c'est amener vraiment les dernières pratiques numériques, mais surtout les interroger. C'est-à-dire que la vocation que l'on a, nous, en tant qu'enseignants, c'est pas simplement de former à un instant T une personne dont le savoir est obsolète, mais plutôt leur apporter un recul sur les outils numériques qui souvent sont un petit peu éphémères, mais essayer de se poser des questions de fond sur ce qu'une organisation veut raconter au-delà de l'outil.
Je me tourne vers vous, du coup, Cécilia et Théo. D'abord, je me demandais quels étaient vos projets pro un peu perso. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, comme on dit souvent aux enfants, et à quoi ça peut mener ce genre de formation ?
Ça part d'un besoin de s'exprimer, je pense, niveau soit créativité, soit création graphique. Ça dépend la porte d'entrée qu'on prend, un peu comme livre professionnel. Ça peut être dessin, ça peut être juste vouloir parler aux gens, vouloir exprimer des idées. Moi, par exemple, ça va surtout être d'un besoin de créativité, parce que j'ai fait une formation de développeur web ici à Raoul Follereau, en BTS, et je trouvais pas vraiment de porte de sortie qui me plaisait niveau créativité dans ce que je faisais. Du coup, j'ai décidé de me tourner vers dessus pour justement creuser ce côté créatif et trouver une meilleure façon d'exprimer ce que je voulais partager aux gens.
Ok, et du coup, t'aimerais faire quoi après la formation ?
Toujours dans le digital, dans la communication, que ce serait prendre un poste de community manager plutôt sur les réseaux sociaux, okay. Une boîte qui m'intéresse, donc ça peut être soit jeux vidéo, manga, littérature, ces domaines-là.
Donc il y a des thèmes qu'on parle souvent ici avec FM. Donc en fait, on n'est pas si loin non plus de ça que la communication, ce que je disais tout à l'heure. On est sur deux filières assez, assez parallèles, non ? Je dis pas de bêtises, je me tourne vers les formateurs. Hein.
Je pense qu'il y a... Il y a la communication qu'on entend habituellement et on a effectivement amené un métier qui est celui du digital. C'est un peu le même type de communication, mais voilà, avec un peu d'autres objectifs et d'autres outils aussi. Moi, je parle beaucoup d'outils, hein, mais, mais je pense que oui, il y a des canaux communs hein, à cette communication dont tu parles. Mais voilà, le marketing digital va apporter cette valeur ajoutée, finalement, ouais. Cette valeur supplémentaire qui fait aussi les métiers de demain qui sont... Alors, pour d'autres générations qui sont un peu impalpables, hein, qui sont, voilà, c'est très abstrait, tout ça.
Très numérique, en fait. Oui.
Alors, peut-être pour faire un effort de définition et de cadrage, je pense que le marketing est une vision complètement globale d'une organisation. C'est qu'on ne se contente pas simplement d'interroger la communication de l'organisation, mais concrètement, quel type d'offre, en fait, simplement, quel produit et quel prix, par exemple, on propose à tel type de personnes. La communication en découle. Donc je serais tenté de dire que le marketing vient en amont de la communication et une stratégie intelligente de marketing, c'est-à-dire tel produit pour tel type de personnes pertinente, permet d'avoir une communication qui est efficace. Donc je pense que si on peut peut-être résumer, le marketing en fait vient en amont de la communication et permet d'interroger le meilleur produit et la meilleure manière de proposer ce produit à un public qu'on a décidé de toucher. Et dans un second temps, la communication arrive, en fait, simplement pour permettre cette rencontre.
Voilà, dans l'objectif, du coup, à la fin, de vendre, finalement.
Alors, de vendre, alors, j'aime pas l'idée de faire simplement vendre, parce qu'on fait tous, malgré nous, du marketing. Quand vous négociez avec vos parents la sortie de samedi soir, vous optimisez votre discours parce que vos parents vont être plus ou moins réceptifs à certains mots et à certains éléments de langage pour arriver à votre finalité.
Ça dépend à quels parents également, j'imagine.
Exactement. Et surtout, j'aime dire que le marketing ne concerne pas que les gens qui gèrent des organisations, enfin, des entreprises, pardon, mais surtout, ça peut aussi, si vous avez envie... de défendre un idéal ou même une organisation, non, enfin une ONG, qui a vocation à peut-être à promouvoir une idée ou en tout cas un combat. Le marketing est également un outil. Moi, j'aime pas l'idée de résumer le marketing simplement à un outil vénal, mais simplement, c'est une manière de permettre la rencontre entre un projet, une idée et effectivement souvent un produit avec un public cible pour permettre de simplement d'arriver à un objectif.
Voilà, le point lexique est important parce que je pense à tous les terminales qui nous écoutent et qui vont se demander vers où je vais me tourner. Voilà, c'est pour apporter en tout cas quelques clés. Cécilia, du coup, j'ai pas eu le temps de t'interroger encore sur ce que tu aimerais faire après la formation et vers quoi tu aimerais te tourner.
Alors, moi, pour l'instant, je vais déjà finir mon bachelor.
Chaque chose a son temps.
Ouais. Tout à fait. Et après, j'ai le choix. En l'occurrence, soit je me dirige effectivement vers le master, soit ben, je rentre dans le vif du sujet et puis j'espère trouver un emploi qui me permettra de continuer ce que je fais déjà aujourd'hui.
C'est quoi que tu fais aujourd'hui ?
En entreprise, je fais de la création d'affichage informatif, promotionnel. Je crée également des posts, donc Facebook, Instagram. Puis après, par la suite, moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir être plus autonome, avoir plus confiance aussi dans ce que je vais faire. Et puis, que ça puisse me permettre aussi de développer une vraie relation avec les internautes, par exemple. D'avoir une vraie communauté, en fait, tout simplement, d'avoir un vrai lien. Et puis, de pouvoir aussi développer ce côté, comme on l'évoquait tout à l'heure, un peu créatif, parce que c'est vrai que c'est ce qui m'a, moi, manqué durant mon BTS. Donc, le développer, tout simplement.
Ça, c'est revenu quelquefois là, dans nos échanges, le côté créativité, c'est important dans la formation. Je sais pas qui veut s'exprimer là-dessus, Théo.
C'est vraiment une porte d'entrée qui est pas forcément principale, mais qui est essentielle dans ce métier, parce que si t'es pas très créatif, c'est compliqué d'être communicant. Ça donne pas envie aux gens si t'as pas de côté extravagant, imaginatif, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important de développer par l'alternant justement qu'on fait souvent dans ce genre de formation. Parce qu'avec l'expérience qu'on acquiert en 2, 3, 4, 5 ans, ça permet vraiment de développer cet esprit créatif au maximum pour après le mettre au service de notre communication.
Cécilia, Théo, je voulais vous demander 2-3 matières, puisqu'il s'agit de scolaires que vous avez, pour les expliquer un peu peut-être aux lycéens qui nous écoutent et que ça leur donne des idées. Je ne sais pas si vous avez des matières préférées en fait, mais des choses comme ça.
Les matières essentielles, ça va être la communication et le marketing, forcément. C'est les matières qui sont le cœur de la formation. Après, il y a les formations au niveau tout ce qui va être graphisme, qui sont importantes surtout au début du cursus pour apprendre les outils et les mettre au service de ses idées. Après, il y a également les cours d'anglais qui sont de nos jours importants. Ne séchez pas les cours d'anglais, c'est important.
L'anglais qui est donc la langue la plus parlée, donc évidemment c'est en ça. Communication marketing en amont, comme on le disait tout à l'heure, ça peut être utile quand même de maîtriser 2-3 mots. Ouais.
Même en français, il y a beaucoup de marques qui disent des slogans en anglais, c'est intéressant de savoir les traduire et les utiliser dans sa stratégie, c'est très important. Ouais.
T'as un cours préféré toi, Cécilia ?
Moi justement, c'est le cours de graphisme en l'occurrence.
Et tu dis pas ça parce que la formatrice est à
côté
de toi ?
Non, pas du tout.
Rien à voir.
Okay. Non, puis on a aussi beaucoup d'autres cours on a des cours qui diffèrent, hein. On va aussi avoir de la programmation, ce qui est une première du coup pour moi en l'occurrence. Alors c'est vrai qu'au début ça peut paraître compliqué, mais je pense qu'une fois qu'on est lancé, ça va tout seul et ça permet de voir autre chose. Ça permet aussi d'avoir de nouvelles compétences qu'on n'avait pas au préalable en l'occurrence. On va voir aussi le marketing dans sa globalité, mais aussi avec des choses plus précises. On va voir aussi tout ce qui est référencement, que ce soit naturel ou payant. On va utiliser des outils qu'on n'avait jamais vus avant. L'anglais aussi est très important, notamment pour l'utilisation de ces outils, puisque c'est vrai qu'il y a beaucoup de logiciels qui font appel à l'anglais. Donc voilà. Mais dans la globalité, tous les cours me plaisent.
Et toi, tu es en alternance du coup ?
Oui, c'est ça.
Et Théo ?
Pareil.
Moi, j'ai fait un master en journalisme et c'est vrai que ce master était également en alternance et beaucoup de mes amis et moi-même d'ailleurs avaient parfois de la difficulté à lier les études et l'entreprise. Est-ce que c'est une difficulté que vous avez, vous, ou est-ce que ça va, l'emploi du temps est assez équilibré ?
On a beaucoup plus d'entreprises que de cours, forcément. Ouais. Et comme c'est vraiment des choses qui sont très liées à ce qu'on fait en cours, c'est vraiment du côté théorique, côté pratique, limite, on pourrait dire. C'est plutôt simple d'allier les deux, parce que ce qu'on voit en cours la semaine d'avant, on peut réussir à le retranscrire dans ce qu'on fait la semaine d'après, ce qui est un avantage.
Ah, donc tu arrives quand même à lier les deux, même professionnellement, ok.
Après, ça va dépendre de ton entreprise d'accueil, forcément. Il y a des entreprises qui vont être plus limitées dans ce qu'elles peuvent faire, ou d'autres beaucoup plus libres. Donc voilà, après, ça dépend forcément de l'endroit où tu fais ton alternance.
Et toi, tu es où en alternance ? Je sais pas si tu peux le dire.
Moi, je suis à la mairie de Varennes-Vauzelles,
okay.
Service communication.
Et toi, Cécile ?
À Bricomarché, à Varennes-Vezel, okay. Comme pour le BTS.
Deux domaines très différents, mais finalement, on reste sur du marketing. Je vais revenir vers vous, cher formateur, je ne sais pas comment vous appelez, je ne sais pas si c'est le bon mot.
C'est bien, cher formateur.
Parfait, c'est génial. Il y a un autre sujet dont on parle beaucoup ici à Bac FM, c'est l'IA, l'intelligence artificielle. Dans un domaine tel que le marketing, encore plus sur des outils comme Photoshop, Canva, qui commencent à en intégrer beaucoup, est-ce que l'IA est inclus dans la formation et comment ça se présente un peu chez vous ?
Bien sûr qu'on en parle. On voit surtout déjà les outils, on va dire, dans leur fonction première, pour être sûr que les élèves soient autonomes et qu'ils ne passent pas forcément par là, parce qu'il faut savoir traduire ses idées. Mais à un moment donné, effectivement, les outils sont là. Ils nous font gagner du temps sur certaines actions. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est pas un outil qui va produire ce qu'on lui demande. Il faut savoir rédiger, demander, peut-être passer par un certain nombre d'étapes. Alors pour certains, ça va être un gain de temps, pour d'autres, pas forcément. Parce que voilà, si on traduit mal son idée, on n'obtient jamais ce qu'on veut, bien évidemment.
Un prompt, comme on dit.
Voilà, un prompt qui sera sûrement un métier émergent aussi à un moment donné. Hein. Mais voilà, moi pour moi, l'IA, on va la voir. Enfin, nous, on ne l'a pas encore abordé d'ailleurs avec les bachelors. Hein. On va en parler parce que c'est vrai que sur certaines retouches, on va vite enlever quelque chose qui gêne dans une image ou bien rajouter un élément, changer une couleur. Il faut voir ça effectivement comme un gain de temps, mais même sans rédiger un prompt, il y avait déjà des outils qui nous permettaient d'atteindre ce genre d'objectif. Faire une sélection d'un élément dans une image, avant on le faisait à la main. On allait avec point par point aller sélectionner son élément dans une image. Aujourd'hui, on a des outils qui sont quand même automatisés et qui intègrent l'IA, même si ça clignote pas en disant c'est de l'IA. Voilà. Mais ça nous fait gagner du temps.
Alors, je pense que l'objectif de l'école, évidemment, l'IA aujourd'hui n'est même plus un module, parce que je pense que l'IA est omniprésente à toutes les étapes d'une réflexion et de la production des étudiants. Je pense que ce qui est important, c'est peut-être de laisser l'IA à sa juste place. C'est que l'IA n'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Et il faut être tout à fait lucide sur le fait que l'IA est un outil absolument extraordinaire d'idéation, un outil absolument extraordinaire pour synthétiser rapidement des idées, mais en aucun cas, elle sera capable de penser à votre place. Et je pense qu'à chaque fois qu'on demande, qu'on sous-traite quelque chose à une IA, reste à se poser la question de la valeur ajoutée que nous, en tant que marketeurs, on apporte. Et ce que moi, je revendique aujourd'hui dans le cadre de l'école, c'est qu'on est capable de leur donner une pensée au long cours, une pensée synthétique et surtout une pensée stratégique qui, justement, leur permet de challenger ce que propose une IA pour apporter leur plus-value et l'utiliser à bon escient, donc travailler plus vite, et surtout, c'est un outil absolument extraordinaire de benchmarking et de création d'idées.
Benchmarking, vous pouvez expliquer peut-être.
Ça demande de faire des inventaires de ce qui existe, très rapidement, pour être capable de créer quelque chose qui n'existe pas encore et de différent.
Il y a beaucoup d'appels, notamment dans les milieux culturels, je pense à nos amis comédiens de doublage, je pense à nos amis graphistes également, qui font des pétitions, s'organisent voilà, pour dire que l'IA, c'est un outil certes, mais... Quand même, on voit des IA qui gagnent des concours de photos maintenant sans pouvoir faire la différence. C'est un outil, mais est-ce que c'est aussi une menace ?
Honnêtement, je ne suis pas persuadée. Comme on est en train de dire, il y a une réflexion en amont. Alors, certes, on peut obtenir la même image, mais si derrière, on ne peut pas la justifier, on ne peut pas justifier des choix et on ne peut pas... Je ne suis pas sûre qu'il y ait un intérêt particulier. Alors voilà, aussi dans la musique, hein, il y a des rythmes nous suggérer, voilà, on a des goûts comme ça qui vont nous attirer plus que d'autres. Mais on est alors tous des individus très différents et je ne suis pas sûre que ça fasse l'unanimité. Une image d'IA peut très bien vous plaire et pas me plaire. Enfin, et inversement, on va être sensible à certaines couleurs, certaines lumières. Je ne suis pas sûre que ce soit une menace à long terme.
Un des groupes les plus écoutés sur Spotify actuellement dans le top 20, je crois, c'est un groupe entièrement généré par l'intelligence artificielle.
Oui, mais pourquoi pas ? Après, voilà, quelle est l'âme, quelle est l'idée derrière ? Voilà, c'est ça qui va faire un peu la différence. Mais on a le droit d'aimer aussi des choses qui sont générées par IA, bien évidemment.
Vous vouliez rajouter quelque chose ?
Alors, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'IA. Je pense que c'est compliqué. Alors déjà, il y a l'histoire des techniques... Il y a toujours eu un conflit permanent entre l'artisanat et la technique. Ça remonte aux ludites et au tout début de l'ère industrielle où finalement les tisserands se révoltaient contre les métiers à tisser parce qu'ils leur volaient leur boulot. Aujourd'hui, plus personne ne dénonce le fait que votre t-shirt n'ait pas été fait à la main par un maître tisserand quelque part en Angleterre ou à Lyon.
Non, maintenant c'est sûrement au Bangladesh d'ailleurs, malheureusement. Mais...
Absolument. Donc la question est de se dire aujourd'hui, Ou est-ce que moi, en tant que créateur, en tant que marketeur, je me sers intelligemment de l'IA pour aller là où je veux aller en me servant de cet outil? Et je pense qu'aujourd'hui, on est vécu une phase un peu de sidération face à l'arrivée très brutale de cette technologie dans nos vies. Je pense qu'on va essayer de trouver un juste milieu entre la part de création humaine et où on aura besoin de ressentir la patte humaine parce qu'on sera capable de la reconnaître, et là on aura envie finalement de tout automatiser parce qu'on n'y percevra pas forcément de valeur. Je pense qu'il faut aussi voir le fait que l'IA, c'est un moyen absolument génial pour faire tomber les barrières à l'entrée pour certains types d'images. Historiquement, vous vouliez faire une magnifique pub de voiture avec des effets absolument incroyables, il fallait un budget absolument phénoménal, un studio, un réalisateur, des techniciens de très très haut niveau. Voilà, aujourd'hui, vous êtes une toute petite marque de voiture, vous avez peu de revenus, mais vous avez plein d'imagination, vous avez beaucoup de temps pour essayer plein de prompts dans votre chambre, et on a en raison de croire qu'aujourd'hui, vous pouvez potentiellement arriver au même résultat. Et moi, cette idée que finalement, les petits poussés peuvent finalement challenger les géants, ça m'amuse beaucoup. Et ce changement, ce fait que l'accès à une certaine forme de qualité d'image se démocratise, moi, ça me passionne. Et comme disait très justement Héloïse, vous avez beau avoir un outil qui permet d'automatiser beaucoup de choses et d'aller beaucoup plus loin et beaucoup plus facilement créativement, si vous n'êtes pas capable de demander à l'IA ce que vous souhaitez avec les mots, le vocabulaire et tout un paquet de paramètres techniques qu'il faut être capable de maîtriser, ça ne sert absolument à rien. Donc je pense que l'IA demande une hyper expertise en parallèle pour l'amener à faire ce que vous souhaitez vraiment faire et à faire des images IA qui soit réellement différente de ce que propose le tout venant des IA.
Pour revenir sur la formation, puisque c'est le sujet de cette émission, vous en parlez de manière informelle ou est-ce que c'est vraiment dans le programme
Alors, il y a eu des modules spécifiques IA dans l'ancien référentiel. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'IA, c'est un petit peu comme le traitement de texte. Ouais. C'est absolument incontournable. Donc, je pense que faire des modules IA dédiés, non. Aujourd'hui, la stratégie pédagogique que j'utilise, et je pense qu'Héloïse, c'est également son cas, c'est de dire l'IA fera partie de votre vie professionnelle. Ce serait démagogique et contre-productif de vous interdire de l'utiliser. Par contre, ce qu'on attend de vous, c'est que vous utilisiez l'IA pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un outil statistique probabiliste qui va vous proposer des choses. Donc vous faire gagner du temps, parce que le temps que vous ne passez pas à lister sur une feuille A4 toutes les idées que pourrait potentiellement proposer l'IA, vous l'avez instantanément. Par contre, à vous d'être beaucoup plus rigoureux sur ces propositions, les challenger et à affecter votre temps, non pas à lister des idées potentielles, mais justement à challenger ce que vous propose une IA en disant cette idée vaut le coup, ok, allons plus loin, challengeons-la, trouvons finalement l'univers qui gravite autour de cette idée et concentrons-nous là-dessus. Donc je pense que l'intelligence face à l'IA, c'est pas de dénoncer l'outil, mais au contraire de se dire j'ai peu de temps, l'énergie que j'ai n'est pas non plus limitée, donc j'essaie d'affecter mon énergie sur ce que l'IA ne fait pas forcément super bien et me servir de l'IA pour ce qu'elle fait de manière absolument extraordinaire, c'est-à-dire automatiquement générer beaucoup d'idées très rapidement qui ne sont par nature pas forcément extrêmement innovantes puisque elle va chercher elle-même dans ses
elle s'inspire voire vole hein, comme vole, dénoncent certains ouais. Cécilia, Théo, pour les terminales qui nous écoutent et qui peut-être auraient envie de faire du marketing digital, est-ce qu'il y a des matières tout à l'heure tu disais l'anglais, mais est-ce qu'il y en a d'autres où vraiment c'est important de maîtriser un peu le truc quand même?
Je dirais qu'il faut avoir de l'appétence pour les matières créatives, c'est pas obligatoire mais c'est un petit plus quand même, ça permet d'avoir un esprit critique de base.
Toi tu dessinais avant de...
Pour le plaisir, ouais. Ça, de temps en temps je dessinais des petits dessins, mais c'est pas vraiment le domaine qui m'a fait pencher là-dessus, c'est surtout, je connaissais beaucoup plus le web, faut avoir une petite connaissance du web quand même, c'est intéressant.
Tu veux dire de culture du web ou de...
Voilà, ça peut être culture du web, ça peut aussi être utilisation des outils,
ouais.
Même si on apprend par la suite les outils spécifiques à ces métiers-là, c'est important de savoir bien maîtriser, entre guillemets, Internet, je peux l'appeler comme ça.
On peut.
Mais voilà, des matières scolaires pures, c'est, à part l'anglais qui est, entre guillemets, matière... importante à maîtriser, il y a vraiment matière à être un expert. Il y a pas de... okay. C'est pas forcément nécessaire.
Je me permets, mais moi je trouve que ce qui fait un peu la force aussi de DigiSub, c'est que vous avez des demi-journées de cours, vous avez des modules, c'est-à-dire que c'est 3h30 du même cours. Donc que ce soit de la programmation, c'est 3h30, vraiment, voilà, on va pas être une heure, le temps qu'on s'installe, qu'on déballe tout ça, qu'on commence à apprendre, c'est déjà fini. Là, on a vraiment du temps dédié et je pense aussi un accompagnement. On a le temps de poser des questions sur 3h30, voire parfois, vous pouvez même avoir la journée complète hein, sur un module. Et je pense que c'est ce qui fait la force et qui peut enrichir un peu aussi la façon de vivre les cours.
Beaucoup d'élèves partent de zéro dans certains domaines et arrivent à la fin de l'année ou plusieurs années à être des experts dans ces domaines-là, justement grâce à ces périodes de cours qui sont plus longues.
Ok, donc on peut partir de zéro.
Voilà, il y a beaucoup de collègue que j'ai eu en troisième année de BTS de bachelor, qui n'avait jamais fait de marketing, qui ne connaissait pas du tout ces milieux-là, et qui finalement aujourd'hui bosse dans le marketing classique, quoi.
Tout à l'heure, Théo et Cécilia nous ont un peu expliqué leur projet. Globalement, quand on termine un parcours de marketing digital, on peut aspirer à quel métier ?
J'en ai noté quelques-uns, j'ai bien fait mes devoirs. Alors, il y en a énormément, hein, je vais en citer seulement quelques-uns, mais on peut être par exemple chef de projet web, web designer, créer des maquettages notamment. On peut être également consultant en stratégie digitale. On a d'ailleurs une de nos formatrices, pardon, dont c'est l'activité à côté. On peut être encore chargé de communication digitale, qui est plus ou moins d'ailleurs ce que je fais actuellement en entreprise. Donc on a quand même un panel assez large malgré tout pour la suite.
Ok, donc il y a plusieurs choix possibles.
Oui, tout à fait.
Sur la même formation.
Alors moi, ce que je trouve passionnant dans les écoles de marketing digital, mais en particulier DigiSub, c'est qu'on n'est pas contraint de travailler toute sa vie dans un domaine. C'est-à-dire que tous les domaines d'activité ont besoin de faire du marketing et a fortiori du marketing digital. Vous êtes passionné automobile, vous pouvez très bien travailler 10 ans au secteur, vous êtes lassé, vous pouvez très bien travailler en prêt-à-porter. Donc c'est une des rares formations qui vous permet de potentiellement changer au cours de votre carrière et surtout de choisir votre emplacement géographique assez facilement.
Est-ce que vous avez un mot de la fin peut-être pour les gens qui nous écoutent pour conclure un peu cette émission marketing digital
Moi je les invite à venir nous rencontrer à l'école.
Et donc je précise que la prochaine porte ouverte pour cette formation marketing digital aura lieu le samedi 17 janvier prochain. Voilà. Donc on pourra venir vous rencontrer, parler
donc
avec des élèves.
Sur le site Federbe, site Federbe, CCI Formation, DigiSup, CS2I pour la partie informatique.
Merci beaucoup à vous quatre d'avoir répondu à ma question. C'était la fin de cette émission spéciale marketing digital, c'est la fin plus globalement des coulisses de la formation de l'émission. On revient sur les backstage un peu de la formation pour expliquer un peu aux gens qui nous écoutent à quoi ressemblent les formations de demain, puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Merci de votre fidélité, vous étiez sur BAC FM 106.1, on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro et tout de suite, on laisse place à la musique rock et metal.